Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
Give it up next for Ellie Chu.
Chubby Chubby Chu Chu!
The good thing about being different in a town like this is that no one expects you to be like them. I'm 17. I live in Squamish with my dad. I run a business, writing essays for people. I guess I just never thought I'd need anyone else.
Hey, hold up.
$10 for 3 pages.
No, I'm not trying to cheat.
What's this?
A letter. Maybe you can make me sound smart.
Dear Aster Flores, I'm in love with you.
Ooh. These hallways are murder.
I'm Ellie Chu.
Yeah, I know. You want a letter about love? I'll write you a letter about love.
Si tu savais, The Half of It. Limite, le titre VF et le titre VO dans cet ordre se complètent. Film de Alice Wu, disponible sur Netflix, avec Léa Lewis, Alexis Lemayer, Daniel Daimer, Enrique Murciano, entre autres François. Le pitch de ce film.
Eh bien, nous allons suivre les tribulations de la jeune Ellie Chu et on va voir qu'il va y avoir un petit parallèle avec la littérature française. Je n'en dis pas plus pour le moment, je laisse un peu de suspense. Et donc, dans ce lycée, il y a une fille très populaire qui s'appelle Aster. Il y a un garçon dans l'équipe de football très timide qui s'appelle Paul. Et elle, qui aide ses petits camarades à faire ses devoirs parce que c'est la seule qui est à peu près intelligente dans
le lot.
Elle
les aide à se payer.
Oui, j'ai pas dit qu'elle les aidait gratuitement. Et donc, se retrouve à écrire une lettre d'amour pour Aster de la part de Paul et au final c'est peut-être que la confusion
elle
aussi, des
elle aussi a des sentiments,
la confusion des sentiments est présente.
Bon, donc on est sur un triangle avec confusion des sentiments, donc on a quelque chose
d'assez comment dire romantique adolescente.
Voilà. Quentin,
comment dire,
souffle. Un très mauvais film d'action déjà.
terrible film d'action. Les scènes de baston sont pas nulles, elles sont inexistantes. Moi, si tu savais, ça m'a fait l'effet d'un jeu indé sorti dans les 10 dernières années.
Dit Life is Strange.
Tu veux dire
Life is Strange.
Sauf qu'il n'y a pas de gameplay.
Il n'y a pas de personnage.
Il
n'y
a pas de gameplay dans Life is Strange aussi.
Bon, au secours. Et que la caractérisation des personnages, elle est vraiment pas ouf. Bref, non, en gros, ce que je voulais dire, c'est que j'y ai vu des clichés. En fait, je me suis dit, ok, il y a des clichés.
C'est marrant parce que c'est un peu anti-cliché, le pitch de base d'avoir une fille un peu... d'avoir déjà une romance lesbienne, d'avoir... Il y a une petite voix off au début où elle raconte, elle dit, ce n'est pas comme toutes les comédies romantiques habituelles, etc. Il y a une volonté d'être anti-cliché.
Non, parce qu'il y a un côté, salut, ça c'est moi. Vous vous demandez comment je suis arrivé là? Et machin, un truc, je vais vous raconter cette histoire, elle est vraiment atypique. Et là, petit...
Bruit du vinyle qui fait...
Elle dit, elle est vraiment atypique.
Non, mais oui, mais non.
Ça a une volonté d'être atypique.
On est dans le poncif de la rom-com Sundance. Je suis, voilà, sans le côté sophistiqué de Sundance.
Qu'on adore.
Pour les spectateurs, vous voyez pas, mais ils ont le feu. Ils ont le feu dans leurs yeux. Ils vont s'entretuer.
Je vais te monter en l'air.
Come with me, bro.
Alors, pendant que les Super Saiyans sont en train de se régler à côté, on va continuer à parler.
Ok, Broly.
Non, moi je suis d'accord, il y a quand même un côté qui est extrêmement cliché dans le film. Et c'est un peu un côté cliché pas assumé. C'est-à-dire, le film, des fois, essaye de dire eh, regardez, je fais pas du cliché, mais au final, pour le faire. Oui. Un exemple tout simple, il y a cette scène où ils sont dans la. Laisse-moi finir pour toi.
Il l'avait pas coupé, il a fait genre.
Je fulmine.
Il y a cette scène où Aster et Ellie sont dans une source d'eau chaude. Mm-hmm. Et le premier truc que dit Aster, c'est la première fois que je suis avec une fille et qu'on parle pas de garçon. Et moi je dis ah cool, donc c'est un film féministe. Et là derrière qu'ils font quoi? Ils parlent de garçon. Et je dis ah bah non, bah raté, c'est dommage. Mais c'est débile parce qu'en fait ça fait partie des, enfin vous savez peut-être aussi qui écoutez, ça fait partie des différentes des cases à cocher pour savoir si t'as un vrai film féministe ou pas.
Le Bechdel test, c'est pas la,
je
ça
sais.
Donne pas la carte pour savoir
je
si
sais.
T'es un film féministe
mais
ou
mais
pas.
Mais je trouve ça débile de commencer une scène en disant hey, pour apprendre la vie, je parle pas avec un garçon. En plus la scène commence comme ça et derrière bah il parle d'un garçon, du coup il fait bah c'est raté.
Mais pour moi c'est clairement justement une référence à ça explicite et assumée et qui s'en moque en fait.
Je suis pas sûr qu'il s'en moque.
Est-ce qu'elle s'en moque ou est-ce que
moi j'ai la réponse mais il faut que je parle.
Passer outre par déclaratif quoi.
Il faut laisser parler François.
Là il se gratte le bras, il est comme un.
Il faut laisser parler Lila.
François il en a gros.
Vas-y, Lila.
Stop Lila.
Bah, pour moi, justement, le fait que directement après, elle déconstruit ça en disant « Et au fait, Paul, qu'est-ce que t'en penses ?» Pour moi, quelque part, il y a une façon de dire... Enfin, au final, c'est quelque chose d'artificiel, justement, de se dire que... Enfin, voilà, il y a tel critère de « Il faut qu'il y ait deux femmes, qu'il y ait un nom et qui... » Et qu'au final, c'est pas ça qui est important et que même si, là, elles vont parler d'un mec, concrètement, ça n'empêche pas le film d'avoir quand même... des personnages féminins qui sont forts, qui sont intéressants, qui se limitent pas à leur relation.
Oui, mais après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que dans cette scène, au final, ce qui est important dans cette scène, c'est pas le fait qu'il parle à un garçon, c'est ce qui se passe après, et ce moment de pause qu'on a entre les deux.
Oui,
mais du coup, ils avaient pas besoin non plus de ce dialogue. Tu vois, le truc est mis en avant, et tu fais, ça sert pas à grand chose au final,
c'est pas
relever ça, tu vois.
Le pinacle de la subtilité,
Et c'est pour ça, en fait, moi, dans le film, il y a pas mal d'éléments que je trouve pas du tout subtils. Comme notamment toutes les références qu'ils font pendant tout le film. Alors ça cite de partout, hein. Sartre, Camus, Wim Wenders, Audrey Hepburn, ils n'arrêtent pas.
Oscar Wilde.
Oscar
Wilde. On a le droit d'être un télo.
Alors moi je veux bien.
On a le droit.
Je veux bien. Par contre, c'est quand même le film. Alors c'est bien fait entre guillemets, mais c'est-à-dire c'est le film où t'as quand même les deux filles les plus intelligentes du lycée qui en plus de travailler ont le temps d'avoir la culture que tout le monde aimerait avoir à 50 ans, tu vois. Et qui se rend compte et qui commence à parler. Et tu regardes le truc, tu fais je veux bien être sympa et rentrer un peu dedans, mais faut pas pousser non plus, tu vois. Enfin,
je baisse les micros parce que les volumes de vos voix sont largement supérieurs à ce qu'elles étaient il y a 10 minutes. Désolé. Justin, j'aimerais bien voir l'arrivée de Justin sur ce film.
Moi je suis partagé sur le film, donc il y a le côté négatif, c'est vraiment le cliché, c'est-à-dire le début. Les trois personnages, c'est des archétypes, donc le garçon est footballeur, forcément, il a jamais ouvert un livre, il sait à peine si c'est articulé. Et la fille asiatique qui est la meilleure de sa classe, enfin tous les gros clichés qu'on a l'habitude de voir. Et à la fin, c'est les clichés, mais inversés, progressistes qu'on a d'aujourd'hui, avec la romance, la romance lesbienne qui n'existe pas au final, avec le garçon, puisque finalement, ça choisit pas, ça c'est essayer de s'attirer à toutes les communautés, sans choisir, sans trancher dans la romance à la fin. C'est-à-dire, il y a la lesbienne, il y a l'hétéro, il y a l'autre qui ne sait pas vraiment, et puis le triangle amoureux n'est pas résolu, donc ça, c'est un peu fascinant, quoi. Par contre, j'aime bien le milieu du film où c'est vraiment que du marivaudage, que du vaudeville, et je trouve que c'est quand même assez réussi, tout le triangle amoureux dans les échanges, les sentiments continus. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je trouve ça, et c'est là où les personnages existent, sont plutôt attachants, où on voit que la relation, même les interactions au niveau de la relation, le garçon qui finalement va plutôt se trouver amoureux, attiré par la fille asiatique, par Ellie. Donc j'aime bien l'entrecroisement des sentiments qui changent un peu la donne des clichés initiaux, quoi. Ça, j'ai plutôt apprécié.
François.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'histoire est une relecture de Cyrano de Bergerac.
Oui.
Parce que j'avais dit au début, on parle de quelqu'un qui écrit une lettre et comme ça, donc voilà, c'était juste que pour abonder dans ton sens du marivaudage.
Mais je reviens sur le milieu du film, et moi j'ai eu cette lecture sur l'ensemble du film, Justin, là où quand vous écharpez sur est-ce que c'est un film, quel est le fond un peu des pensées, est-ce que la morale est bonne, est-ce que la morale est pas bonne, est-ce qu'elle est datée, pas datée, ça m'est passé un peu au-dessus, en fait, là je me rends compte que j'ai pas eu du tout ces débats-là, et...
Il y a une scène à la fin dans l'église. Pour moi, c'est la scène de l'église du lauréat. Alors oui, c'est super malaisant comme scène. Sauf que dans...
Très drôle.
Moi, j'ai pas rigolé, mais
c'est
pourquoi
très
pas.
Drôle.
Mais en fait, le truc, c'est que dans le lauréat, cette scène arrive et c'est ils font exploser un petit peu les codes de la famille.
C'était autrement plus strict.
C'est ça,
déjà.
Américaine. Et là, cette scène arrive. Et en fait, pendant cette scène, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça dans une église? Parce qu'en fait, les autres gens dans l'église ne sont pratiquement pas filmés. C'est vraiment entre quatre personnages. Parce que il y a le copain d'Aster qui est présent. Mais tu pourrais dire, ça reprend. Ça... Peut-être que c'est pour faire un peu exploser le truc, mais au final, quand tu regardes les personnages, Aster, l'autre il propose. En plus, à l'église, il propose en mariage, pire truc. Mais c'est pas grave. Et elle. Tu vois qu'elle voulait accepter, mais c'est juste parce que c'est quelque chose qui lui a été imposé par sa famille qui est très croyante, religieuse. mais c'est pareil, c'est quelque chose qui est pas vrai.
Parce qu'elle est mise en porte-à-faux devant sa communauté, aussi. C'est-à-dire qu'en gros, lui demande un mariage à la messe devant tous les croyants, quoi.
Enfin, c'est
ça se passe dans un bled dans le Midwest.
Hein. Ouais, mais du coup, la scène marche pas parce que c'est que tu compares avec le lauréat. Je crois qu'il y a presque pas de dialogue, ça marche surtout visuellement.
Et dans le lauréat, tout le monde gueule dans l'église, ils arrêtent pas.
Je répète que la scène est très drôle.
Là, ça ressemble à des scènes qu'on voit dans des sitcoms. Ouais. Tout d'un coup, il y a un personnage à la fin qui se déclame.
Dans les séries Netflix.
Voilà,
un peu.
Les espèces de séries. Et puis, il y a même un cliché comme ça. Je crois qu'il y avait un teen movie qui s'appelle Not Another Teen Movie. Sex Academy.
Tout à fait.
Où on avec Chris super Evans. Clap.
Oui.
C'est-à-dire, il y a un cliché où il y a un mec pendant tout le film qui essaie de caser un slow clap.
Ouais.
Parce que c'est le moment d'émotion et tout. Ouais. Et là, limite, on l'a.
Excellente référence, Justin. Tu marques un point. Tu as le droit de revenir. Non, mais oui, Lila, vas-y.
Non, du coup, j'avais plusieurs choses qui me sont venues. Alors, est-ce que je vais arriver à me rappeler si moi il y a un truc et ça me fait un peu penser quand juste le titre quand tu penses de Not Another Teen Movie, mais c'est que j'ai eu qu'une hantise pendant tout le film, c'est qu'au tout début en voix off elle nous dit oui c'est pas une histoire d'amour, en tout cas pas une où quelqu'un finit par avoir ce qu'il veut, et j'ai eu qu'une hantise, c'est que finalement tu vois le film se dédise de ça et qu'à un moment ça tombe dans la facilité de il va vraiment y avoir un truc bien qui va se passer. Le film tombe pas dans cette facilité, traite ça plus subtilement. Une autre chose que je me suis dite, on parle du fait que c'est un cliché de sitcom, etc. Moi, ça me pousse un peu à m'interroger sur concrètement quelle est où inscrire dans la culture ces films qui sont des productions Netflix, qui sont faites pour sortir en VOD, etc. Parce que on a tendance à le juger spontanément à l'aune de ce qui va sortir au cinéma, enfin, pas forcément les blockbusters, mais en tout cas des productions qui ont des ambitions cinématographiques plutôt fortes. Pour moi, au final, si je le juge d'après ça, effectivement, c'est un peu faible, si tu savais. Maintenant, si j'y pense comme un téléfilm M6 de deuxième partie d'après-midi...
Ça, c'est mon argument pour les films pas géniaux, ça, que tu reprends. Alors que The Alphavit, c'est vraiment très bien.
Pose-toi les bonnes questions.
C'est pas mal. Mais justement, en fait, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. J'ai passé un bon moment devant. Après, effectivement, je vais l'avoir oublié, mais tout dépend en fait les attentes que je place dans ce film à la base. Et si je me dis c'est juste quelque chose comme ça que je me mets pour ma soirée, bah oui, c'était bien et c'était pipou. Hein, je l'ai mis dans le tableau.
Pipou.
Voilà,
moi,
c'était
mon
pipou.
Argument.
Et puis,
voilà.
Si je veux une variante qui, moi, me parle plus en termes de snobisme, disons les choses comme elles sont, il y a un film qui reprend un peu, mais pour le coup, pas du tout. Dans le côté comique, là, on est vraiment plus dans le côté dramatique. Mais moi, le film m'a beaucoup fait penser à Blue Gate Crossing de Yi Chien. Je jette un regard à tout hasard vers Justin, parce que si quelqu'un l'a vu ici, c'est lui. Et ou pareil, il y a un peu un triangle amoureux entre un garçon qui va demander à l'ami de la fille dont il est amoureux de l'aider. Je crois que c'est ça, hein. Et sans se apercevoir que cette fille en l'occurrence elle est lesbienne et elle est même amoureuse de son amie, là okay, il va y avoir le côté plus réflexif, plus mais pour moi c'est pas ce que je demandais si tu savais, en fait, tout simplement.
Bon.
Et puis il y a aussi le côté que je trouve, j'en ai marre de voir ça dans les films, c'est le côté on filme les textos, quoi. Les films on s'envoie les textos, puis il y a l'espèce d'inscrit, c'est insupportable. Je sais que c'est dur à traduire visuellement quand on a des personnages qui s'envoient des SMS ou des... Mais je sais pas, c'est vraiment
en plus, en plus l'amour est chauve, je sais que c'est pas la bonne traduction.
Moi je suis partagé sur un aspect du film. Moi d'une manière générale j'ai tendance à pas aimer les films, ou en tout cas je trouve ça un peu dommage quand la sexualité ou quand l'orientation sexuelle d'un personnage le caractérise. Si par exemple il y a une romance gay dans le film, ça va être le sujet du film. Moi je trouve ça bien quand dans un film un personnage est lesbien et à aucun moment on dit le mot lesbien, c'est juste que cette femme elle est amoureuse d'une femme, point. Voilà.
Je crois qu'on le dit pas.
Et en fait dans le film on finit par le dire. Et du coup on finit par parler du fait que elle est gay, etc., etc. Et donc du coup je me suis dit ah dommage, ils ont pas assumé ce truc là. C'est à dire que en gros le film, en gros Ellie aurait été un garçon, que le film aurait pu être le même, clairement. Je veux dire,
c'est une bonne chose, non ?
Ce qui est une bonne chose pour le coup. Il y a toujours des.
Bah, c'était Cyrano de Nardouac.
Ça fait que le scénar est quand même cliché, qu'il y a des trucs qu'on a vu mille fois. Moi, j'ai un vrai problème avec le personnage de. Non, mais.
Non, je me racle la gorge.
J'ai un vrai problème avec le personnage de Aster. Je n'ai pas compris ce personnage. J'ai pas compris ce qu'elle était. J'ai pas compris ce qu'elle voulait. J'ai pas compris ce qu'elle aimait. C'est-à-dire qu'elle sort avec un gars. On suppose qu'elle sort avec lui parce que. Enfin. on les a jamais vraiment vus ensemble.
C'est-à-dire
qu'elle le trompe complètement sans que ça lui pose aucun problème moral. On s'en fout, après tout, pourquoi pas, mais n'empêche qu'à aucun moment dans le film c'est évoqué. Soulevé, ouais. Personne ne se pose la question de savoir que c'est le cas. Il y a certainement une raison. J'arrive. Et surtout, moi, là où j'ai un peu bondi, c'est que j'ai pas du tout compris cette scène dans la cascade. J'ai pas du tout compris. Je me suis dit, mais attends, elle l'a tiré dans la cascade.
Deux filles peuvent s'aimer, Quentin.
Mais non, mais justement, je me suis dit, bien sûr, deux filles peuvent s'aimer. Et allez-y, genre, faites-vous plaisir. Le problème, c'est que...
Mais pas forcément devant toi.
J'ai pas... Merde. Non, j'ai pas compris ce qu'elle voulait faire. Dans le sens où, est-ce qu'elle est amoureuse de Ellie? Est-ce qu'elle a deviné que c'était elle qui écrivait? Est-ce que... Bah non, pas nécessairement.
Du coup, non.
Elle est... J'ai pas compris pourquoi d'un coup c'est devenu sa super pote.
Attendez, faut qu'on lâche le Cerbère un moment.
Ouais, voilà, parce que genre en fait, il faut que je laisse.
Lâchez François.
Il faut que je laisse parler François parce que sans quoi il va couper tout le monde tous les temps de secondes.
J'ai dit que j'ai pas compris, hein, attention.
François.
Bonsoir.
Comment ça va? T'as reco culturel?
Alors. Nous parlons donc de The Alphavite, le film qui a 96% d'opinions positives sur Rotten Tomatoes.
Ouais.
Les gens ont le droit de les gens seront d'accord avec moi, il faut le savoir.
Comment tu
es sûr que t'as fait un bot Rotten Tomatoes pour faire monter les pourcentages?
Mais ça va. Et en fait, il faut savoir que la comédie romantique, telle, on en parlait tout à l'heure pour Color Out of Space, telle la série B de science-fiction adaptée de Lovecraft, ouais, la comédie romantique, quand on en a vu 50, on ne se pose pas la question de pourquoi la fille la plus populaire du lycée est avec le mec le plus populaire du lycée, de pourquoi il y a une scène dans une église avec un mariage.
C'est un cliché de teen movie.
Voilà. C'est juste des codes qui sont là parce que, et dans une comédie romantique, on doit passer par tous ces codes pour ressentir le plaisir de la rom-com. Et donc le film va passer à travers toutes ces étapes, nous donner le plaisir simple d'une rom-com, mais en plus il a ajouté un petit surcroît intelligence, parce que les dialogues sont quand même assez drôles. Je sais pas, on en a pas parlé, mais les dialogues sont quand même assez drôles.
Alors, je trouve qu'ils sont bas la flotte la plupart du temps. Mais j'ai compris l'intention. C'est juste que ça n'a pas marché sur moi.
J'ai absolument pas. Je vais dire, écoutez, si j'ai écouté.
C'est pas du tout intéressant.
Non, mais j'ai
écouté le dernier album de Slipknot pendant que je regardais le film.
J'ai absolument pas remarqué, pris en note, mis en intelligence la plupart des arguments sur le fond que vous avez présenté. Moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est les dialogues que je recoupe. Les dialogues et certains personnages que je recoupe avec les nouvelles, ce qu'on peut qualifier un petit peu comme les nouvelles écritures de la jeunesse américaine moyenne, telle qu'on peut la voir dans 8th Grade de Bob Burnham, par exemple, telle qu'on peut la voir ça et là dans quelques productions Netflix comme Super Dark Times, même s'il ne présentait pas la génération actuelle. Voilà, j'ai trouvé une certaine force dans des dialogues qui sont un peu au-delà de la moyenne. Ça répond bien, ça répond de manière construite. Il y a un rythme de parole, un rythme de mots auquel je suis particulièrement sensible.
Les performances des acteurs sont très bien.
Sont très bien. Tu disais au tout début, Justin, qu'il y en avait ce personnage du football, du joueur de foot américain du lycée qui est ultra comment dirais-je? Oui, cliché. Je trouve qu'il n'est pas qu'il n'est pas du tout, même au début, parce que même si c'est pas dit, en fait, il n'est pas populaire du tout. Il est nul au foot.
Il travaille dur.
Elle pense qu'il est super bon au foot, mais juste il fait du foot. Il est giga nul.
Personne n'a jamais marqué de points dans l'équipe depuis plus de 20 ans. Je crois.
Ouais, non, mais voilà.
Toute l'équipe, c'est des gros.
Et il a un côté. Moi, ce personnage m'a un peu attendri parce que j'aime beaucoup ce genre de personnage qu'on retrouve un peu dans le cinéma américain, de personnage qui a une tête à jouer dans 99,9% du temps le mec de high school populaire et tout, et qui là, je sais pas. Il doit descendre un truc dans son œil gauche qui le rend un peu bêta.
Oui.
Et il a une diction d'un mec un peu bêta, mais genre extrêmement, ce qu'il dirait, wholesome. Donc, j'ai jamais réussi à traduire cet adjectif, mais quelque chose de bienveillant, généreux, voilà. Ouais. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de bienveillant et de généreux dans les dialogues. Après, j'ai pas cherché à le matcher moralement, j'ai pas cherché à le matcher dans le grand schéma de la comédie romantique. Je me suis juste laissé. J'ai écouté des gens parler et ça m'a fait du bien sur 1h30.
Puis voilà. L'idée de reprendre Cyrano de Bergerac et de se baser sur cette situation toute simple où en fait la fille aime bien l'autre fille, mais elle veut pas lui dire parce qu'elle se sent pas légitime à l'aimer, comme Cyrano se sent pas légitime à aimer Roxane parce qu'il est laid. Et elle, c'est parce que c'est la petite intello, elle est immigrée. Enfin bon.
Aussi qu'ils sont cousins. Dans Cyrano de Bergerac.
Ah oui, Cyrano, là je me disais.
On arrête un truc.
Ça ressemble pas du tout, quoi.
Quentin.
En fait, je trouve que moi, j'ai eu un souci avec le personnage de Ellie, c'est qu'elle est censée jouer la fille qui est martyrisée à l'école, qui...
Elle est plus martyrisée dans le synopsis que dans le film.
Ouais, bah, je sais pas, tu vois, les mecs ils disent chouchou à chaque fois qu'ils passent.
Vous n'avez pas vu le film, monsieur.
Percuté, vois, le gros dur lui donne un coup d'épaule devant ses potes. Dans le couloir. Enfin,
je crois que il fait pas attention à elle plus qu'il la
grise. Oui, il s'avère que c'est le mec le plus con du coin qui est en plus le mec de la meuf dont elle est amoureuse. Tu vois, j'y ai quand même vu un gros truc. Moi, le problème, c'est que je me dis, bon, elle a pas d'amis, clairement.
Non,
elle s'exprime extrêmement bien avec tout le monde. Elle fait preuve d'humour.
Parce qu'elle regarde des films. Ça, c'est comme nous, c'est pareil.
Oui, c'est ça.
Elle a vu Casablanca, elle a la classe incarnée.
Non, elle serait moche sans quoi.
Alors, je
connaissais ma politique là-dessus.
Sur le fond du film, moi, je suis un peu obligé de voir l'intention de la réalisatrice. Au début du film, il y a une citation de Platon. Après, il y a une citation de
Sartre.
Oscar Wilde.
Ah non, excellent.
Et puis après, il y a une citation du personnage que la réalisatrice a écrit.
Donc, oui, c'est vrai.
Alors, est-ce que ça veut dire que au final, Platon, Oscar Wilde, on s'en fout un peu, ou est-ce que ça veut dire que regardez, le personnage que j'ai écrit, c'est du même.
Non, parce que il me semble que la citation du personnage, c'est les trois emojis là. C'est genre, c'est un
oui,
peu.
Oui, ça
genre,
termine par les emojis.
C'est plus non, en mode contrepoint. Ah bon, c'est pas ça.
Non, il y a autre chose avant.
Citation. Et du coup, en fait, j'étais.
Si l'amour est chaud. C'est pas ça, mais l'amour est chaud. Non, c'est Love is Bold, mais c'est pas le bold chauve.
Stop, c'est l'autre.
Explicitement, c'est aussi un film qui invite, enfin, qui la trajectoire de ce personnage, c'est justement sortir de ses livres, trouver sa propre voix, et même si voilà, c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui se réfugie en partie dans cette culture parce que elle s'exprime extrêmement bien, mais au final, son contact est pas spontané. C'est toutes ces connaissances qu'elle a accumulées, et la trajectoire de son personnage, ça va être d'arriver à sortir de ça et trouver ses propres mots, même si justement, c'est peut-être pas aussi impressionnant que les mots de Platon, etc. Et pour moi, la toute dernière citation avec les emojis, ça va au bout de cette déconstruction et de se dire, au final, on s'en fout de Platon, on envoie un emoji aubergine et puis voilà. Quoi.
Surtout que.
Ça aura pris le temps, mais.
Surtout que justement, malgré toute sa culture et sa manière de s'exprimer, quand elle arrive à la première lettre qu'elle doit écrire pour Paul, elle reprend une Wenders et elle se fait griller direct, tu vois. Et du coup, elle doit chercher ses propres mots derrière. Donc, je pense que c'est plutôt le côté les citations, c'est bien joli, mais au final, c'est pas ce qui est important, tu vois.
Très honnêtement, j'ai ni aimé ni pas aimé le film, mais 20 minutes de débat avec une rangée aussi large de spectres de cinéma et de débats sur la morale du film m'indique que tout n'est peut-être pas à jeter. Et qu'il y a au moins eu cet intérêt-là. Mais c'est vrai que par rapport au pitch de la comédie, j'aurais pas pu penser qu'on aurait extrait autant de choses de ce Si tu savais. Je pense que c'est plutôt un bon point, même si évidemment on est beaucoup à avoir vu le film et qu'on a des avis très divergents, ce qui force le débat.
96%.
Si tu savais.
Donc ça veut dire qu'il y a que 4%, mais ils existent ces 4%, ils ont le droit à la parole.
Bah oui, ils sont tous autour de toi.
Apparemment, oui.
On va terminer sur Si tu savais, sur une note.
Oh, Robin, on n'a pas dit la moitié de
on
ce
a... oh là yeah. Oh, on applaudit.
Oui.
96% des gens approuvent cette blague.
Évidemment, on ne peut que recommander Not Another Teen Movie, Sex Academy, une des meilleures scènes de football américain que vous avez jamais vu, une des meilleures scènes de Chris Evans avec une banane dans le cul que vous n'avez jamais vu. Oui,
là tu me l'as vendu.
Franchement, depuis ce jour, j'aime la banana split.
Qui est frère et soeur incestueux avec Mia Kirchner.
En vrai, c'est le scary movie sous-côté. C'est vraiment super.
Mais si vous n'êtes pas né avant 1991, c'est
c'est une parodie.
C'est John Hughes, tout
voilà. C'est une parodie de. Voilà, vous n'avez pas vu Breakfast Club, c'est compliqué. Mais je me dis qu'un jour, on aura un Sex Academy sur toutes les séries Netflix et ça va parodier ce genre de truc. Ça va arriver. Sachez-le.
En attendant, regardez The Alpha Vite.
En attendant, faites ce que vous voulez avec The Alpha Vite, mais en tout cas.
Sinon, on serait pas.
Sans quoi, en plus, comme ça, pour écouter ce podcast. Merci beaucoup pour cette émission. C'était éprouvant. François, tu étais insupportable.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, ouais. C'est pour ça qu'on t'aime. Salaud. La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.